La première,
13h15, 14h30,
un jour dans l'histoire.
Il est né le 15 ou 16 décembre 1770. Pour comprendre pourquoi il y a cette petite précision, il faudra réécouter le numéro 1 de la série que nous propose Cécile Post. Ludwig van Beethoven est mort 57 ans plus tard, évidemment, à Vienne. Bonjour Cécile Post. Au lieu de rire, dites-nous ce que la jeunesse de Beethoven va nous montrer aujourd'hui. C'est une jeunesse éclairée, pourrait-on dire?
Oui, alors voilà, il est né à Bonn, dans ce milieu éclairé, vous venez de le dire, qui est sensible aux idées de la Révolution. Et puis surtout parce que en 1784, il y a le prince électeur Maximilian Franz qui va régner. C'est le dernier fils de Marie-Thérèse, c'est le frère de Joseph II qui lui était un despote éclairé, et Maximilian Franz va se baser un peu sur ce que fait son frère, donc il va faire des tas de réformes. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui aime les arts et qui aime la musique, voilà, qui est donc tout bénéfique pour notre cher Beethoven.
La première présente Ludwig van Beethoven.
C'est des actes d'audace qu'il a eu dans ses compositions.
Cette souffrance n'est pas inutile.
Le vin, c'est la plus hygiénique des boissons.
Il y a des passages qui sont vraiment faits pour rire.
Des partitions totalement illisibles.
L'approfondissement infini de l'espace intérieur.
On entre presque dans le crâne d'un sourd.
Il y a eu un énorme orage. D'après ses activités, parce qu'il était non seulement chanteur à la cour, mais aussi dans la ville de Bonn, il organisait des séances de théâtre.
Elisabeth Brisson.
Il avait plein de copains qui étaient les membres du théâtre, Grossmann qui dirigeait le théâtre, Neff, etc. Et tout ça, ça se réunissait chez lui. C'était des joyeux vivants qui avaient beaucoup de vitalité, je crois. Ils se réunissaient aussi au café. Et bon, ils devaient boire, mais à mon avis, pas plus que... Alors, on a raconté que le papa était très alcoolique, violent, qu'il brutalisait, etc. On n'en sait rien. Et lui, Beethoven, n'a rien laissé transparaître dans sa vie postérieure. C'est-à-dire, au contraire, il a une déférence pour ses parents. Parce que quand on voit l'épisode, la vie qu'il a passée avec son neveu Karl, jamais il n'évoque le fait que son père était méchant, violent. Alors, est-ce qu'il le cachait? Sans doute pas. Il avait une déférence normale. Alors, il y a une lettre qu'on a découverte il n'y a pas très très longtemps. Une lettre de 1795, donc il était tout juste à Vienne, qu'il écrit à un de ses amis, qui était un ami avec lequel il avait grandi à Bonn, et qui venait de perdre sa mère. Et lui, il a une phrase superbe d'ailleurs, montrant la douleur que c'est de perdre ses parents. Il dit, c'est comme si il y avait un membre d'un tout, d'une harmonie qui partait, et que c'était une harmonie qui se trouvait brisée. Donc quand on voit cette phrase, dans ce contexte d'un ami qui était très proche, avec une très grande sensibilité, où il y a, dans cette phrase, il y a des références à Moses Mendelssohn, donc sur la bonté et le bien qu'il faut faire dans la vie pour que l'humanité soit heureuse, on se dit qu'il y a une authenticité, qu'il a pas un mauvais souvenir de ses parents, au contraire, les avoir perdus, ça a été... Et c'est pas... Parce qu'à un moment, il y a aussi... c'est Brahms qui possédait ce manuscrit, Beethoven aurait retrouvé quelque chose de Carl Philipp Emanuel Bach, qui avait été recopié par son père, et il aurait dit « de mon cher père, de mon cher mère ». Mais c'est une phrase courante, si vous voulez. Donc on ne peut pas tirer de cela le fait qu'il aimait beaucoup son père. Mais ce qui a été raconté, c'est vraiment pour valoriser le génie qui sortait d'enfer, une vie infernale, et que ça le valorisait, quoi. Donc il faut faire très attention à cette affaire-là, et comme dit Julia Runge, l'alcoolisme du père, ce n'est pas encore un objet d'étude.
Cher, ta lettre m'a fait grand plaisir. Tu es dans les pays froids, là où l'humanité n'est pas traitée à sa juste valeur, ce qui va à l'encontre de tes convictions, de ta façon de penser, de ton cœur et par-dessus tout de tes sentiments. Quand arrivera le moment où il n'y aura plus que des hommes? On verra cela se passer dans quelques lieux, mais pas partout et pas avant plusieurs siècles. La douleur provoquée par la mort de ta mère, je sais ce que c'est. Je l'ai ressenti déjà deux fois lors de la mort de ma mère et de celle de mon père. Vraiment, à qui cela ne fait pas mal de se voir arracher un membre d'un tout harmonieux si rarement trouvé? Beethoven.
En 1778, Beethoven et son père prennent la route de Cologne.
Le père de Beethoven, qui donnait des leçons de chant, de musique, de piano à l'aristocratie de Bonn, va faire un concert à Cologne, et là, il va dire que son petit garçon, son Söhnchen, son fiston, on dirait, va se produire Alors là, il y a un avertissement, ce qu'on appelle un avertissement, enfin, un flyer, hein, qui a été détruit à la suite de la Seconde Guerre mondiale, mais dont on avait des copies. Sur cet avertissement, il y a donc le père qui voudrait être un nouveau Léopold Mozart, qui s'est bien rendu compte que son fils était important et qui va d'ailleurs le rajeunir à cette occasion pour dire qu'il est vraiment un petit gamin de 6 ans, alors que Beethoven en avait... Et c'est un autre témoignage, donc très jeune, dans ses premières années, 5-6 ans, le petit Beethoven, il était... on a remarqué qu'il pouvait peut-être être l'équivalent d'un petit Mozart. Et il va être très très incertain sur sa date de naissance, il se croit plus jeune, et ce qui est important, c'est que, important mais indéterminable, c'est qu'il n'était pas l'aîné de la famille, pas le premier-né, le premier-né qui s'est appelé Ludwig aussi n'a vécu que 6 semaines, juste un an avant, enfin un an et demi avant la naissance du nouveau Ludwig. C'est un peu l'histoire de Van Gogh qui prend la place de son frère. Il va y avoir une confusion. Bon, évidemment, pour lui, Beethoven, être rajeuni, c'était lui qui était le plus jeune, hein. Mais avoir une incertitude sur cette date, ça pouvait peut-être, quand il était jeune, lui permettre de montrer qu'il était précoce.
Aujourd'hui, date du 26 mars 1778, dans la salle des académies musicales, dans la Sternengrass, le hofténoriste de l'électeur de Cologne, Beethoven, aura l'honneur de présenter deux de ses élèves, à savoir Mademoiselle Averdong, altiste de la cour, et son petit garçon de 6 ans. Ils auront l'honneur de se présenter, la première avec différents beaux airs, le second avec différents concertos en trio, où il se flatte que toute la haute assistance prendra un plaisir complet, d'autant plus que tous deux ont eu l'honneur de se faire entendre de toute la cour avec le plus grand plaisir.
Lorsqu'il fut assez avancé pour pouvoir le faire entendre aux amateurs, son père, exalté, invitait tout le monde à venir admirer son Ludwig, qui demeurait d'ailleurs insensible à tous les éloges, se dérobait et s'exerçait pour lui seul, de préférence quand son père n'était pas à la maison.
Lorsque Ludwig van Beethoven fut assez grand, il alla à l'école élémentaire de Huppert dans la Neugasse et plus tard à la Münsterschule. D'après ce que disait son père, il n'apprenait pas grand-chose à l'école. Aussi son père le mit de bonne heure au clavier et il l'y retenait sévèrement. Gottfried Fischer.
Beethoven quitte l'école à l'âge de 10 ans pour se consacrer entièrement à la musique. Nous sommes en 1780. À ce moment-là, un juriste, bossu, arrive à Bonn. Cet homme est un érudit en plus d'être un humaniste. Il s'appelle Christian Gottlob Neff. C'est lui qui enseigne au jeune Ludwig la composition, la basse continue et le piano.
Ce qui est sûr, c'est qu'il va avoir comme maître, après quelques mètres de passage, Neffe, celui qui dirigeait donc l'orchestre du théâtre, et que Neffe va reconnaître ses dons très vite, puisqu'il y a vraiment le témoignage historique, c'est en 1783, il envoie les nouvelles de la cour électorale dans un journal, parce que les journaux musicaux commençaient à se développer. Il y avait à Hambourg un journal qui s'appelle le journal de Kramer, qui était dirigé par Kramer, qui récoltait les nouvelles musicales des différentes villes d'Allemagne. Et là, Neffe dit qu'il a entre les mains un petit génie. Il est vraiment content que ce soit lui qui lui apprenne à composer et qui lui apprenne à jouer le clavier bien tempéré de Bach. Et il est tellement génial qu'il faut... C'est un nouveau Mozart, et qu'il faudrait donc le soutenir. Il a fait un appel au mécénat, en fait, on dirait maintenant.
Beethoven entre alors en contact avec Handel et avec Bach. À l'âge de 12 ans, Ludwig van Beethoven est déjà un pianiste et un organiste virtuose dans cette ville de Bonn qu'il a vu naître en 1770.
Beethoven est né dans une ville qui était une cour princière électorale. C'est-à-dire que le prince électeur était un de ceux qui élisaient l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Beethoven donc est né dans cette ville à Bonn, qui était le lieu de résidence de l'archevêque qui était à Cologne. Il avait donc une cour avec une chapelle princière et ce qu'on appelle une chapelle électorale, avec des musiciens. Il y avait un théâtre, il y avait donc beaucoup de cérémonies. Et là, en 1770, quand Beethoven est né, son grand-père était maître de chapelle du prince électeur. Ce prince électeur était ouvert aux arts, il y avait une bibliothèque musicale importante et il y avait toutes sortes de festivités, des festivités qui sont liées au faste du pouvoir, où l'orchestre donc intervenait, il avait des chanteurs. Le père de Beethoven était chanteur d'ailleurs à la cour électorale. Enfin, dans sa petite enfance, Beethoven il va profiter du fait que le prince électeur va ouvrir un théâtre à l'image de celui de Vienne, un théâtre, le Théâtre National, où il va donc y avoir des représentations avec une troupe permanente qui est la troupe qui va être celle de Grossmann, qui jusque-là était itinérante, et avec un maître de musique, celui qui dirigeait la musique de ce théâtre. Et c'est ce maître de musique qui s'appelle Neff qui va devenir le maître de musique de Beethoven.
L'Allemagne, à l'époque, était divisée en 300 états à peu près, du moins en 1770, lorsque Beethoven naît. Lorsque Beethoven mourra en 1827, il n'y en restera plus qu'une trentaine. Par conséquent, cette Allemagne morcelée, divisée en principautés, laïques ou ecclésiastiques, ne constitue pas une unité et on assiste depuis deux siècles environ à la montée d'une bourgeoisie qui fait la richesse des différentes principautés. Qu'est-ce que c'est qu'un archevêque à Cologne au XVIIe et au XVIIIe siècle? C'est avant tout un grand seigneur, et cela au moins autant qu'un homme d'église. Les prédécesseurs de l'archevêque qui va nous intéresser, d'abord Clemens Auguste, étaient à la fois évêque de Münster, de Paderborn, d'Osnabrück, et il avait pour coutume de vendre ses hommes comme du bétail. Il les vendait sous la forme de soldats à la France, à l'Angleterre et à ceux qui payaient le mieux. Et à ce sujet, une lettre très dure à son égard existe qui fustige cette manière d'opérer, cette manière de se faire une richesse, et cette lettre a pour auteur Frédéric II de Prusse. Nous devons passer maintenant au successeur de l'archevêque Clemens Auguste. Il s'agit là de Maximilien Frédéric. Lui préférera lier l'archevêché et sa principauté à la Hollande et à l'Angleterre. On voit donc que peu importe à ses seigneurs le sentiment national allemand, ils se vendent au plus offrant.
Le prince électeur, Maximilien Friedrich, est au courant des talents et des dispositions musicales du jeune Ludwig. Il met alors à son service quelques musiciens de la cour. Beethoven, lui, compose 3 sonates qu'il dédie au prince archevêque. Avril 1784, le grand électeur Maximilien Friedrich meurt. C'est Maximilien Franz qui lui succède. C'est le 16e et dernier enfant de l'impératrice Marie-Thérèse. Maximilien Franz est le frère de Joseph II. Il se destinait d'abord à une carrière militaire, mais une mauvaise chute de cheval l'estropie. Le voilà donc qui décide d'entrer dans les ordres.
Le successeur de Maximilien Frédéric sera Maximilien François. Et là, il se passe un événement extrêmement important, c'est que ce nouvel archevêque est le frère de Joseph II. Marie-Thérèse, l'impératrice d'Autriche, a su placer ses enfants à des postes clés. Sa fille Marie-Antoinette a épousé Louis XVI. Une autre fille, Marie-Caroline, est montée sur le trône de Naples. Une autre est aux Pays-Bas. Et le frère cadet de Joseph II est donc archevêque. Pourquoi l'a-t-elle placé à cet endroit? Eh bien, d'abord, pour avoir sur les bords du Rhin un représentant de l'Autriche. Et deuxièmement, pour faire face, non pas à la France qui, à cette époque, est liée d'amitié, puisque les Bourbons et Louis XV, Louis XVI n'étaient pas du tout hostiles à la maison d'Autriche, comme ce fut le cas dans l'ancien temps, mais pour faire face à la Prusse. En effet, l'époque est marquée par un antagonisme prusso-autrichien qui lie les deux pays de telle sorte que lorsque la Révolution française va éclater, eh bien, il n'y aura pas d'intervention immédiate.
Maximilien Franz se calque sur le modèle régnant de son frère Joseph II. Lui aussi sera un despote éclairé, lui aussi s'ouvre à la philosophie des Lumières et lui aussi ne se prive pas de faire des réformes progressistes.
En 1784, le Maximilien Friedrich, qui était le premier prince électeur que Beethoven avait connu, meurt.
Elisabeth Brisson.
Et il est remplacé par celui qui était coadjuteur, c'est-à-dire qui était déjà prévu comme celui qui le remplacerait, qui est Maximilien Franz, qui est le petit frère de l'empereur Joseph II qui règne alors. Et l'empereur Joseph II, c'est le despote éclairé. D'ailleurs, c'est un empereur réformateur qui s'est préoccupé de développer l'enseignement, de développer les transports, d'abolir la torture. Donc, c'est considéré comme un empereur révolutionnaire. Avec un recul, et c'est avant 1789, on peut plus trop dire ça, mais quand même, c'était quelqu'un de très ouvert. Et Maximilien Franz, donc son frère, était dans les mêmes positions.
L'archevêque Max Franz, frère de Joseph II, est acquis aux idées de celui-ci. Le joséphisme, c'est donc avant tout un effort de centralisation, de construction d'écoles et d'hôpitaux, de réduction des privilèges, et également un effort dans le sens de la tolérance. Joseph II accordera une patente de tolérance qui laissera quelques droits aux Juifs, en particulier la possibilité d'être artisan et de poursuivre des études. La censure est notablement réduite, la police est réorganisée. Cependant, ce joséphisme, qui a pour but d'organiser solidement tous les États de l'Autriche, ne considère pas que la participation populaire soit nécessaire. Il s'agit, en quelque sorte, d'une réforme accordée par le souverain de droit divin. Le joséphisme est donc une réaction de sauvetage, et en même temps, un idéal qui doit beaucoup à toutes les idées de l'Aufklärung. L'archevêque désire avant tout, du moins il l'écrit, rendre son peuple heureux, ne pas se mêler de querelles politiques. Et là, il y a quelque chose de fort intéressant, justement dans le domaine de la liberté de l'esprit. L'archevêque crée à Bonn une société de lecture ouverte à tous et fréquentée en particulier par les Illuminés. Les Illuminés sont une société secrète des libéraux allemands et ils sont en quelque sorte des gens qui mettent en cause l'ordre établi. Dans les statuts de cette même société de lecture, on trouve la phrase suivante « Le rang social n'entre pas en ligne de compte ». L'archevêque laisse donc paraître des écrits qui sont mis à l'index par le pape et cela en totale opposition avec son propre chapitre de la cathédrale de Cologne.
Bonn va être un des grands foyers culturels de l'Allemagne et le jeune Beethoven va vivre dans l'entourage d'intellectuels et de penseurs qui sont imprégnés de la philosophie des Lumières, qui sont imprégnés d'idées pré-révolutionnaires et qui vont saluer en 1789 la révolution.